Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
À la maison, nous n'avions pas de bibliothèque. Les seuls livres disponibles étaient les livres de religion. Ni littérature, ni philosophie. En Algérie, la science est vénérée, du moins lorsqu'elle ne dit rien de contraire à la religion. La philosophie est trop dangereuse. La littérature éloigne les esprits du droit chemin. J'ai grandi avec l'idée qu'un Dieu unique a créé ce monde, qu'il l'a organisé et qu'il régit désormais nos actions. Bref, qu'une vérité existe et que tout ira pour le mieux, pour peu qu'on suive les préceptes. 2 ans après être arrivé en France, tout a basculé dans ma vie. Jusque-là, je croyais être homosexuel comme on a une passion pour le violon ou les timbres postaux. Ça va un moment, puis ça passe. Que je finirai un jour par entrer dans le rang. Ce sont mes mots de l'époque. Et puis, mon corps m'a appelé. J'ai compris que ce ne serait pas passager, que c'était là et bien là, pour de bon. J'ai alors commencé à lire, à questionner ma vie, à chercher des réponses au monde. Puisque l'islam est incompatible avec l'homosexualité et donc avec ma propre personne, il fallait bien trouver des réponses ailleurs. J'ai lu de la philosophie. Ce fut une période compliquée. J'en garde encore les traces. On ne se détache pas d'une culture facilement. On ne se débarrasse pas d'un dogme rapidement. Mais les livres n'offraient aucune réponse. Ou plus exactement, les réponses étaient si nombreuses qu'elles s'annulaient mutuellement. Ce qui me ramenait toujours au même point de départ.
Littérature sans frontières. Un pays, un auteur.
Bonjour Brahim Métiba.
Bonjour.
Et merci de nous avoir lu ce passage de votre nouveau livre intitulé « Tu reviendras » paru aux éditions Elizade, qui nous parle de l'Algérie, où vous êtes né, où vous êtes retourné récemment retrouver votre famille, le temps d'une semaine, et ce pour plusieurs raisons, nous allons en parler. Mais pour commencer, quel est votre lien avec l'Algérie que vous avez quitté il y a une quinzaine d'années pour vous installer à Paris ?
Un lien assez intense qui se caractérise principalement par la culture, la musique, les informations, la presse donc. Et puis les nouvelles que j'ai de ma famille.
Et pourquoi en êtes-vous parti ?
À l'époque, je disais pour vivre autre chose, pour voir autre chose. Je suis né dans une ville assez petite. En France, on dirait une petite ville de province. Et j'avais envie d'air. Je crois que dans mon esprit, petite rime un peu avec étouffante. Et je crois que j'avais envie de respirer, j'avais envie d'air. Et mon projet n'était pas encore défini à ce moment-là. Donc il s'agissait simplement de respirer, de voir autre chose.
Et vous aviez quel âge ?
J'avais 23 ans.
Est-ce que c'est lié aussi au fait que vous avez annoncé à votre famille que vous étiez homosexuel ?
Non, ça c'est venu après. Ça s'est venu après, moi je savais que j'étais homosexuel, je l'ai su assez tôt. Le coming out, comme on dit, est arrivé bien plus tard.
Vous ne pouviez pas le dire tant que vous y viviez parce que c'était un tabou en Algérie ?
C'est un peu plus complexe que ça. Je crois que j'espérais moi-même, j'ai nourri, d'ailleurs je crois que c'est dans le passage que je viens de lire, je crois que j'ai nourri pendant assez longtemps l'espoir que ça allait rentrer dans le rond pour reprendre mes termes de l'époque. Et puis ça s'est confirmé. Donc je ne l'ai pas dit parce que je pensais passer à autre chose réellement. Et puis cette autre chose n'est jamais arrivée et je crois que tous les homosexuels vivent ce moment-là où ça se confirme, où l'homosexualité n'est pas une étape, du moins pas dans la majorité des cas. Et donc dès que ça s'est confirmé, il s'agissait pour moi de l'affirmer, enfin, de l'assumer du moins.
Cela dit, Brahim Métiba, même si effectivement c'est une annonce qui s'est faite donc a posteriori, ça vous a tout de même éloigné un peu de l'Algérie parce que je crois que vous n'y êtes pas retourné pendant plus d'une dizaine d'années.
Oui, tout à fait. Oui, oui. L'annonce n'a pas été simple. Elle ne peut pas l'être de toute façon. Il s'agit d'un contexte conservateur, traditionnaliste, donc ancré dans la religion qui n'est pas l'ami des homosexuels. Donc l'annonce ne s'est pas faite facilement. Oui, en plus de l'éloignement physique, il y a eu une rupture ou du moins une tension très très forte au moment de cette annonce.
Même avec vos frères et sœurs, puisque je crois que vous êtes 7.
Oui, nous sommes 7. Hélas, avec certains d'entre eux, oui.
Oui, quoi?
Oui, c'est même avec eux, c'est-à-dire la rupture a eu lieu aussi. Ça, c'est quelque chose que... En France, on ne saisit pas vraiment la, parce qu'il y a une rupture avec la religion qui s'est installée depuis des siècles. On ne saisit pas encore l'emprise de la culture traditionnaliste, même sur des esprits cultivés, puisque tous mes frères et sœurs ont fait des études supérieures et on est tous intellectuels, dirons-nous, dans la famille. Mais même dans ce contexte-là, qui est différent du contexte de mes parents, a fortiori ma mère donc analphabète. Même dans ce contexte-là, la chose n'a pas été simple à prendre en compte, du moins pas auprès de tout le monde.
Ils vivent tous en Algérie ?
Non, j'ai un frère et une sœur en France. Nous sommes 3 en France.
En tout cas, cette Algérie, Brahim Métiba, et vos parents restent au cœur de vos livres, même à distance, même avec cet éloignement, même avec cette fracture peut-être, puisque du premier, intitulé « Ma mère et moi », consacré comme on l'entend dans ce titre à votre maman, au suivant « Je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi » qui reprend une phrase de votre père, jusqu'à celui-ci « Tu reviendras » qui raconte votre retour au pays natal. La famille, donc, l'Algérie sont toujours au cœur de vos livres. Pourquoi ? Pour combler un manque ou pour communiquer ce que précisément vous ne pouvez pas leur dire de vive voix ?
Non, je crois qu'un livre ne peut pas être un moyen de communication dans la mesure où il s'agit d'utiliser la langue d'une certaine façon. Notamment par ses capacités à créer de la fiction, mais le travail sur le rythme, etc. Et donc on s'éloigne quelque part de la communication. Alors pourquoi cette présence, comme vous le rappeliez si justement, de la famille, de l'Algérie dans mes livres? C'est parce qu'il s'agit de questions que moi je me pose. Ce sont des situations qui me questionnent réellement sur mon rapport au monde, comme disent les philosophes. Vivre en France me fait questionner aussi sur ma culture d'origine, sur mes origines. Peut-être que si je ne vivais pas en France, je n'écrirais pas, et du moins pas sur ces thèmes-là. Donc ces thèmes-là ont quelque chose de très intime, mais moi j'y vois quelque chose d'assez universel. Dans Ma mère et moi, par exemple, il y a la question de la différence, de la communication. Et là, clairement, il s'agit d'incommunicabilité entre deux personnes qui représentent deux univers, deux mondes, deux cultures différentes. Dans Tu reviendras, il s'agit du rapport à l'exil, du rapport à la solitude, du rapport aussi à la mort, puisque la mort du père est imminente et il y a la ville qui change et qui envoie de destruction, et le rapport au souvenir, au passé aussi. Je me nourris d'une expérience personnelle, mais je crois que profondément, et c'est ça, me semble-t-il, la différence entre un vrai travail d'écriture et un travail psychanalytique, c'est que je crois que je l'utilise pour faire poser des questions d'un ordre plus général que la simple tension familiale ou le simple traumatisme.
Donc c'est une forme de trilogie, d'une certaine façon, portrait de la mère, portrait du père, et ici portrait de la famille, portrait du groupe.
Et de l'Algérie.
Et de l'Algérie, bien entendu. Puisque après donc des années d'absence, se profile à un moment donné dans votre vie, Brahim Métiba, 3 bonnes raisons d'y retourner. La dépression de votre père, et en creux l'idée peut-être de se réconcilier avec lui avant sa mort. Les 80 ans de votre mère, vos 40 ans, est-ce que c'était en effet des signes presque que vous attendiez pour y retourner ?
Je dirais peut-être ce sont même des signes que j'ai créés, la symbolique des 40 ans, donc l'âge où ma mère m'a eu, et la symbolique que j'ai voulu inscrire dans le texte de renaissance, ça c'est une symbolique que j'ai créée pour me donner quelque part du courage, parce que je crois qu'il en fallait un peu, et y retourner. On peut pas dire que j'ai attendu le signe de la dépression de mon père, je m'en serais passé, et lui le premier d'ailleurs. En revanche, la mort imminente et l'approche de la mort, et là on rejoint aussi le même mouvement dans ma mère et moi, parce que la mère est vieillissante et il s'agit de dialoguer aussi avant qu'il ne soit trop tard, comme il est dit dans le texte. Ça, en revanche, il s'agit d'une vraie raison d'y retourner.
Et en même temps, il y a une tension dans cette décision, à la fois une excitation évidemment et puis une forme d'inquiétude. Ça fait aussi écho à un sentiment étrange que j'ai cru comprendre que vous aviez en France à travers ce bref passage écrit juste avant le voyage. J'ai vu des amis pour un verre, je leur ai parlé de mon projet de retourner en Algérie. Et du journal. Nous nous sommes quittés. J'étais absent comme chaque fois ces deux dernières années. Fermez les guillemets. Qu'est-ce que c'est que cette absence, Brahim Métiba ?
C'est une excellente question. Je crois que tout le travail que j'ai fait, notamment un travail philosophique comme je le lisais tout à l'heure, est un travail qui m'a éloigné d'un socle qui, aussi bancal soit-il, offrait plus ou moins de stabilité. Et je crois que ce travail-là de questionnement sur des thèmes aussi existentiels que métaphysiques, sur le monde, sur le sens de la vie, sur les bonnes décisions à prendre, le rapport à autrui, le rapport à la culture, etc. Je crois que ce travail-là m'a mis dans une espèce de flou. Et c'est ce flou-là, c'est ce flou-là qui est nommé absence. A fortiori, juste après donc l'annonce de mon homosexualité. Chez moi, ça a créé une sorte de déstabilisation. Et il s'agit de cette absence-là.
Une absence peut-être liée donc au fait de votre exil, pas seulement géographique, sans doute.
Exactement.
Exil au sens général du terme. Donc, c'est presque comme si le retour était aussi devenu une nécessité, ou en tout cas une étape importante vers laquelle il fallait aller.
Oui, je parle souvent de rapport au réel, quand je parle de ce retour-là. Quand on pose la question du retour, ce que ça apporte, ce que c'est réellement, concrètement, je dis qu'il s'agit d'une confrontation au réel. Et donc oui, quand vous êtes confronté au réel, quand j'ai été confronté au réel, ça m'a ancré dans cet univers-là, dans ce monde-là, qui a été le mien pendant des années et qui l'est toujours quelque part. Et ça m'a empêché de continuer à être dans cette absence. Et l'autre terme que j'utilise pour décrire un peu ce qui se passait en moi, c'est le fantasme aussi. L'éloignement crée du fantasme. Que se passe-t-il de l'autre côté ? Que se passe-t-il là-bas ? Que se dit-il ? Etc., etc.
Et qu'est-ce qui vous manquait le plus de l'Algérie ? Un pays ou votre enfance ?
C'est encore une très très bonne question. Je crois de ce pays, de fait, je n'ai que des souvenirs. Je n'ai que mon passé. Donc je crois que ce qui manquait, c'est les lieux de l'enfance, mais c'est aussi une voix. Cette voix-là, elle est au présent, elle est réelle. C'est la voix de mon père, c'est le visage de ma mère, ce sont les murs, la pierre. Proust dit que la mémoire est inscrite dans la pierre. C'est la mer aussi, la mer Méditerranée, c'est les vagues, c'est le bruit des vagues, c'est le son de la ville, c'est la lumière qui est très, très particulière et très qui n'a rien à voir avec la lumière parisienne, même si la lumière parisienne est très très belle. Donc c'est un tout, c'est à la fois des choses que j'ai connues et que je ne retrouverai jamais, du moins pas sous l'aspect sous lequel je les ai connues. De fait, voilà, les choses changent. Et puis il y a des choses qui sont au présent et qui sont toujours là. ولا دوبت فينا الحنين السنين لا الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان السماء ولا المكان
Littérature sans frontières.
Un pays, un auteur.
Et nous sommes en Algérie aujourd'hui avec l'écrivain Brahim Métiba, dont le nouveau livre intitulé « Tu reviendras » aux éditions Elizade est le bref récit d'un retour au pays après une longue absence pour retrouver sa famille à Skikda,
oui,
qui est donc au nord de l'Algérie, près de la Méditerranée, à 500 km d'Alger, c'est ça?
Exactement, c'est sur la côte, oui, tout à fait.
Un petit
dans
village.
Le Constantinois, comme on disait. C'est une ville, je ne saurais pas vous donner le nombre d'habitants, mais c'est une ville moyenne, hein, ni trop petite, ni suffisamment grande, une ville moyenne.
Donc vous racontez un voyage en avion, vous atterrissez non pas à Skikda parce qu'il n'y a pas d'aéroport, c'est un port. Vous faites le voyage en taxi avec un chauffeur qui visiblement vous prend un peu pour un étranger, alors que évidemment vous connaissez parfaitement les lieux et la langue. Et quand vous êtes arrivé, Brahim Métiba, à Skikda, que vous aviez quitté plus de 10 ans auparavant, est-ce que cette ville de votre enfance avait beaucoup changé?
Je crois que le changement n'est pas immédiatement perceptible, déjà parce que je cherche les lieux que je connais, et de fait il y a des choses qui sont toujours là. Il y a une couleur de la pierre, encore une fois, il y a le sol en briques rouges, il y a le ciel, il y a les toits des maisons et des immeubles. Il y a la disposition des décors dans l'espace public, les commerces, etc. D'ailleurs, sur les commerces, peut-être que c'est la première chose nouvelle que j'ai vue. C'est l'arrivée je le raconte aussi, c'est l'arrivée des fast-foods. C'est peut-être la première modernité, si voilà. De fait, c'est une modernité sans jugement de valeur que j'ai vue. C'est le premier changement que j'ai vu vraiment perceptible. Sinon, le reste, c'est beaucoup d'immeubles nouveaux, beaucoup de nouvelles constructions. Je raconte aussi que j'avais l'impression que le pays était en chantier permanent et partout.
Oui, c'est ce que vous dites, que l'Algérie est un pays en construction.
Oui.
Donc vous arrivez dans un pays qui est en train de changer, qui est en pleine mutation, vous diriez, et qu'en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses.
Oui, en 10 ans, il y a le vieux, qui évidemment ce terme-là prend tous ses sens, puisque dans le livre il y a un parallèle assez évident entre la vieillesse réelle du père et la vieillesse de la ville. Donc il y a le vieux qui est en train d'être détruit par l'effet du temps, hein, pas volontairement détruit. Il ne m'a pas semblé voir une volonté de l'État de prendre soin ou de la municipalité de prendre soin de ce vieux-là, ce qui évidemment pose tout un problème du rapport au passé aussi. Et puis il y a ces nouvelles constructions qui sont en périphérie de la ville, mais là j'ai l'impression que c'est un mouvement qu'on voit un peu partout et qu'on peut voir aussi autour de Paris. C'est des nouvelles villes, de fait on est face à une démographie qui explose, et donc oui, il y a de nouvelles villes qui sont créées, qui sortent un peu comme des champignons.
Alors, ce qui m'a beaucoup frappé dans ces retrouvailles avec votre famille, Brahim Métiba, c'est que il y a une espèce d'impression de tout le monde fait comme si rien ne s'était vraiment passé, comme si ces 10 ans n'avaient pas existé. Votre père, en revanche, qui est très affaibli, qu'on voit allongé, amaigri, lui n'est pas très chaleureux envers vous, sans doute que votre déclaration le fait encore souffrir. Votre mère, en revanche, reste très digne, comme si tout allait bien. C'est un peu le retour aussi du fils prodige. Est-ce que pour autant, ils avaient conscience que vous étiez devenu un écrivain en France et que vous aviez écrit sur eux?
Alors oui, ils le savent. Mais c'est quelque chose que je ne sais pas et que je ne peux pas faire valoir. C'est-à-dire que En gros, j'ai deux univers dans ma vie. J'ai un univers intellectuel ou intellectualiste parisien, peuplé de d'autres écrivains, de profs de lettres, de lecteurs assidus, oui, d'agrégés d'histoire, de philosophie, etc. Dans cet univers-là, je peux faire valoir mon rapport à l'écriture, ce que ça signifie, ce que ça m'apporte, ce que j'essaie d'apporter aussi à ceux qui veulent bien me lire. L'écriture, la littérature a de la valeur au sein de cet univers. Dans mon autre univers, dans l'univers de mes parents en Algérie, à Skikda, c'est quelque chose qui est su, mais c'est quelque chose qui n'a pas de grande valeur.
Est-ce que c'est lié aussi au fait que vous écrivez en français et que dans un certain milieu, le livre n'a pas d'existence si ce n'est pas le livre sacré, le Coran par exemple?
Oui, tout à fait. Dans ce milieu-là, en effet, la référence littéraire, dans le sens premier du terme, c'est le Coran. Ma mère, de fait, ne sait pas lire, donc le fait que ce soit en français ou en arabe ne change rien. Elle ne lit pas plus l'arabe que le français. Mon père lit, en revanche, mais il ne lit pas non plus mes livres. Il sait lire, mais il ne lit pas non plus mes livres. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de grande valeur. La seule chose, comme vous le disiez, c'est justement qui a de la valeur, c'est la valeur religieuse, tout ce qui est véhiculé par la religion. Il y a un rapport aussi à la vie, à la mort, au paradis, à la morale qui est très 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 important. On n'est pas dans un rapport à la lecture ou à la réflexion. Voilà, je dis évidemment ça avec beaucoup de bienveillance.
Oui, bien entendu. Est-ce qu'il y a une forme d'indifférence aussi parce que vous écrivez en français, Brahim Etiba?
Non, je ne crois pas. Mon père est francophone. Dans ma famille, évidemment, je fais partie d'une famille, surtout du côté de ma mère, d'une famille d'anciens combattants, de guerriers, comme je le dis dans d'autres de mes textes. Donc on est très attaché à l'Algérie algérienne, mais on ne nourrit pas, comme on peut le voir dans d'autres milieux algériens, on ne nourrit pas de haine pour la langue du colonisateur. Ça, je ne pense pas avoir vu ça dans ma famille. Dans la famille de mon père, ils sont tous francophones. Autant il y a, encore une fois, un attachement à l'algérianité, à la liberté de l'Algérie, à son indépendance, etc., etc. Mais je n'ai jamais vu de haine par rapport à la langue française.
En tout cas, c'est une langue, Brahim Etiba, que vous avez apprise à l'âge de 9 ans, c'est ce que vous écrivez, qui est devenue votre langue d'écriture. Et d'ailleurs, dans ce livre qui se lit aussi comme un journal intime qui chronique chaque étape de ce retour en Algérie, je n'ai trouvé qu'une seule phrase en arabe, celle-ci. Est-ce que vous voulez bien nous la lire et
avec
nous dire
plaisir.
Sa signification?
Une voix déchire le silence de la nuit, l'appel à la prière. Sur mon journal, je note « Hayya ala salat, hayya ala al-falah ». Alors c'est une phrase de l'appel à la prière. Et donc, ça signifie « venez à la prière, venez œuvrer dans la vie, voilà, soyez actifs dans la vie, évidemment sur le sentier de Dieu, bien sûr.
Voilà. » Et quelle est votre relation à la langue arabe aujourd'hui, Brahim Etiba?
C'est une relation amoureuse qui se traduit, là encore, principalement par la musique. C'est une relation musicale et orale, quelque part poétique aussi. Bien sûr.
Est-ce que par la musique, vous entendez par exemple la chanteuse Warda?
Oui, tout à fait.
Je cite cette chanteuse algérienne qui s'est exilée et qui est morte en Égypte. Je la cite parce qu'il me semble que votre maman l'a vue en France,
oui.
À l'Olympia, en 1961.
Exactement, mes parents l'ont vue à l'Olympia en 61, oui, tout à fait. Mes parents vivaient en France, oui.
Ce qui me frappe beaucoup chez vous, Brahim Etiba, c'est que on l'entend bien depuis le début de cet entretien que vous parlez de deux univers comme s'ils étaient différents, et en même temps, ce sont deux univers que par l'écriture vous ne cessez de réunir et d'unir. Et d'ailleurs, rappelons que votre premier roman, Ma mère et moi, c'était quand même cette expérience extraordinaire de vous lisant à votre maman à haute voix, puisqu'elle est analphabète et qu'elle ne lit pas le français. Le livre de ma mère, d'Albert Cohen, une expérience qui a duré 23 jours et que vous avez retranscrite dans ce livre parce que vous avez besoin de dialoguer avec elle, même si vous nous avez dit tout à l'heure que les livres ne servaient pas à communiquer, mais là, il me semble bien que c'est une passerelle néanmoins. Donc vous n'avez de cesse de vouloir réunir ces deux univers, et est-ce que en effet ce livre Tu reviendras a été vraiment le trait d'union qui vous a permis de, dans ce lieu d'écriture si personnel, si intime, d'inclure tout ce que vous êtes?
Oui, je crois, oui. En effet, dans ce livre-là, je crois qu'il y a une synthèse assez intéressante qui a lieu, une synthèse de tous ces univers-là. J'en ai cité les deux principaux qui me peuplent et qui me font. Et pour encore appuyer sur la différence entre ce que la littérature offre et ce qui se passe en littérature et ce qui n'a pas lieu dans la vraie vie, entre guillemets, c'est que cette synthèse-là, elle pourra jamais, cette union-là entre ces deux univers, je crois que ce n'est pas réalisable dans la réalité, pour toutes les raisons évidentes, qui paraissent désormais évidentes, que j'évoque depuis tout à l'heure. C'est peut-être pour ça aussi que la littérature existe, finalement, c'est-à-dire que ça offre un espace de rêve et de, les analyses diraient, de sublimation, mais en tout cas, oui, je pense que rêve, du coup, ça me paraît assez juste.
Et pour illustrer ce que vous venez de dire, encore une citation, sur mon journal, je note... Sentiment que mon moi restait attaché ici en Algérie, mon moi enfant rejoint mon moi présent, sentiment d'unité. Encore un mot, Brahim Métiba, comment est-ce que vous vivez le soulèvement populaire aujourd'hui en Algérie?
Je suis assez admiratif, je trouve les images que je vois et qui me parviennent par les différents médias assez belles. Il y a de la joie et il y a de la beauté de la jeunesse algérienne. Je regarde ça avec attention.
Espoir?
Espoir, oui, bien sûr. Oh oui, espoir. Ma nature et mon goût pour la réflexion, la structuration d'un discours et d'un programme politique, puisqu'on parle de politique aussi. Ce goût-là fait que j'attends ce moment où il va y avoir effectivement un programme ou du moins un discours ou une tendance structurée et qui donnera des directives à suivre. Puisque pour le moment, il s'agit d'un mouvement. Un mouvement joyeux, un mouvement beau, certes. De mon point de vue, je trouve qu'il manque de structure et de discours pour soutenir ce mouvement-là. Mais je suis sûr que ça viendra.
Ultime question, Brahim Métiba. Ce livre est publié par une maison d'édition tunisienne. Excellente, évidemment. Mais pourquoi pas une maison en France comme précédemment, voire une maison d'édition en Algérie?
Eh bien, ce sont mes affinités de lecteur aussi et mes recherches qui m'ont poussé vers Elizade. Il y a une question de ligne éditoriale, donc quand il s'agissait de proposer ce texte, j'ai essayé évidemment de frapper aux portes où il avait des chances d'être bien accueilli. C'est ce qui s'est admirablement passé avec Elisabeth Daldoul.
Vous avez frappé aux portes algériennes aussi ou pas?
Non, je n'ai pas frappé aux portes. Alors attendez, oui, si, je crois que si. Je crois
D'accord.
Que si. Je crois que j'ai envoyé, j'ai pas reçu de retour.
Vous aimeriez être édité en Algérie?
Ah oui, j'aimerais beaucoup, oui.
Vous êtes diffusé beaucoup. De toute façon?
Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que mes premiers livres, ils ne sont pas diffusés en Algérie, ça c'est sûr. Je crois que Elizade diffuse en Tunisie, mais pas en Algérie, à vérifier, mais je n'en suis pas sûr.
En tout cas, vous aimeriez bien.
Ah oui, j'aimerais beaucoup, oui.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de ce nouveau livre, « Tu reviendras » de Brahim Métiba, donc, qui a paru aux éditions Elizade.
Littérature sans frontières. Un pays, un auteur. We'll be right back.